Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir du 7 mai 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a qualifié de la question la plus importante de l'oumma islamique la Palestine. Aujourd'hui, dans un discours très important prononcé à l'occasion de la journée mondiale d'Al-Quds. Au Yémen, d'intenses affrontements se déroulent sur différents fronts à Ma'arib. Et le président des Syriens, Bachar al-Assad, a reçu une lettre de la part du premier ministre irakien. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé aujourd'hui un discours très important à l'occasion de la journée mondiale de Quds. Et la question de Palestine reste la question la plus d'actualité, la plus importante pour de toute l'oumma islamique. Les politiques du système capitaliste oppressif et cruel ont chassé des gens de leur maison, de leur patrie et de la terre de leurs ancêtres pour installer à leur place un régime terroriste et héberger un peuple étranger, a souligné dans son message l'honorable Ayatollah Khamenei, et de préciser que peut-on trouver des raisons plus fragiles et plus faibles que celles qui ont été présentées pour l'établissement du régime sioniste. D'après ces déclarations, les Européens ont opprimé les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et par conséquent, l'oppression faite aux Juifs devrait être vengée en déplaçant de chez lui un peuple de l'Asie de l'Ouest et en commençant un horrible massacre dans ce pays. Et toujours dans le message du guide suprême de la révolution islamique, nous lisons « C'est une logique sur laquelle les gouvernements occidentaux se sont appuyés dans leur soutien sans réserve et ont été au régime sioniste, violant ainsi toutes leurs prétentions mensongères sur les droits de l'homme et la démocratie. Cela fait maintenant 70 ans qu'ils s'appuient sur cette histoire à la fois ridicule et tragique, y ajoute de temps en temps un nouveau chapitre. Dès le premier jour, les sionistes ont transformé la Palestine usurpée en base terroriste. Israël n'est pas un pays, mais plutôt un camp de terroristes opposés à la nation palestinienne et aux autres nations musulmanes. Combattre ce régime cruel, c'est combattre l'oppression et le terrorisme, et c'est une responsabilité collective. Et toujours dans le message du guide suprême de la révolution islamique prononcé à l'occasion de la journée mondiale de Rose, nous lisons: un autre point à noter est que bien que ce régime usurpateur ait été établi en 1948, le terrain pour occuper cette région islamique sensible avait été préparé des années auparavant. Ces années spécifiques ont coïncidé avec les ingérences actives des Occidentaux dans le pays islamique dans le but d'encourager un sécularisme et un nationalisme excessif aveugle, et avec l'objectif de mettre en place des gouvernements despotiques partisans ou au service de l'Occident. L'étude de ces événements en Iran, en Turquie et dans les pays arabes de l'Asie de l'Ouest à l'Afrique du Nord révèle cette amère vérité et montre que ce sont la faiblesse et les discordes au sein de l'Oumma islamique qui ont ouvert la voie à l'usurpation désastreuse de la Palestine et permis au front de l'arrogance de porter ce coup à l'Oumma islamique. Et l'honorable Ayatollah Khamenei de préciser, il est instructif de savoir qu'à cette époque, les deux camps du capitalisme et du communisme se sont entendus avec les richissimes sionistes. Ce sont les Anglais qui ont élaboré et poursuivi le complot, et puis les capitalistes sionistes l'ont exécuté avec leur argent et leurs armes. L'Union soviétique a également été le premier gouvernement à reconnaître officiellement ce régime illégal et ensuite expédié un grand nombre de juifs dans cette région. Et l'honorable Ayatollah Khamenei de souligner, aujourd'hui la situation dans le monde n'est pas comme celle de cette époque. Nous devons garder cette vérité à l'esprit. Aujourd'hui, le rapport de force a basculé en faveur du monde de l'islam. Et divers incidents politiques et sociaux en Europe et aux États-Unis ont dévoilé les faiblesses et les troubles profonds et des structurels, et gestionnaires et moraux des Occidentaux. Les événements électoraux aux États-Unis et les échecs notoires et scandaleux des responsables fanfarons et arrogants de ce pays. La lutte désespérée d'un an contre la pandémie aux États-Unis et en Europe et les incidents honteux qui sont arrivés, ainsi que la récente instabilité politique et sociale dans les plus importants pays européens, sont tous des signes de la décadence et du déclin progressif du camp occidental. Par contre, la croissance des forces de résistance dans les régions islamiques les plus sensibles, le développement de leurs capacités défensives et offensives, la croissance de la prise de conscience des motivations et de l'espoir dans les nations musulmanes, la tendance croissante à suivre les slogans islamiques et coraniques et les aspirations croissantes à l'indépendance et à l'autonomie chez ces nations sont des signes de bon augure et d'un avenir meilleur. Dans cet avenir prometteur, la coopération entre les pays musulmans doit être l'objectif principal et fondamental, et cela ne me semble pas si inaccessible. L'axe autour duquel tourne cette coopération est la question de la Palestine, l'ensemble de ce pays et le sort de la noble ville de Quds. C'est cette vérité qui a poussé le cœur éclairé du grand imam Khomeini, que Dieu lui accorde sa miséricorde, à faire du dernier vendredi du Ramadan la journée mondiale d'Al-Quds. A souligné encore dans son message l'honorable Ayatollah Khomeini. Le ministère iranien des Affaires étrangères a publié une déclaration à l'occasion de la journée mondiale de Quds, qui est célébrée le dernier vendredi du mois béni de Ramadan. La stratégie historique de l'imam Khomeini en désignant le dernier vendredi du mois béni du Ramadan, journée d'Al-Quds, a maintenu en vie l'idéal de la libération palestinienne, révélant l'oppression et le crime des sionistes contre le peuple opprimé de Palestine. Aujourd'hui, à un moment où les crimes et l'oppression du régime d'apartheid des sionistes et la violation des droits droits des Palestiniens se sont intensifiés. Nous maintenons en vie l'idéal de la journée mondiale de Quds, a souligné dans son message le ministère iranien des Affaires étrangères à l'occasion de la journée mondiale de Quds. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, le général de division Hossein Salami, a déclaré que la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique a établi un front mondial très large dans la région qui a obligé l'ennemi à faire face à une nouvelle structure de pouvoir à chaque endroit de la région, conduisant à une diminution de la puissance américaine au Moyen-Orient. Les Américains sont obligés de quitter progressivement le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, vous voyez qu'une partie de l'armée terroriste américaine est en train de quitter l'Afghanistan et cette sortie est le résultat de la volonté des nations. Salami a en outre réaffirmé que c'est la volonté des nations dont les terres ont été usurpées par les Américains pendant des années. Un autre exemple que nous pouvons voir en Irak en ce moment. Le président syrien Bachar al-Assad a reçu une lettre du premier ministre irakien Mustafa al-Kazemi, remise par Falah al-Fayyaz, chef des unités de mobilisation populaire et portant sur les relations bilatérales et des questions d'intérêt commun, ainsi que sur les derniers développements au niveau politique et sécuritaire, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Au Yémen, d'intenses affrontements se déroulent sur différents fronts à Marib. Les combattants yéménites tentent de repousser des éléments de la coalition d'agression saoudienne et d'achever l'opération entamée il y a quelques mois pour libérer la ville stratégique de Marib. Les combats se font sur les axes sud-est du district de Metral et à l'est et au sud-est du district de Sirva, a-t-on appris d'une source déployée sur le terrain. Et le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, Jean-Claude Cassi Brouat, a déclaré à Dakar qu'avec la vaccination contre la COVID-19, cet espace ouest-africain pourrait rapidement retrouver les conditions d'une reprise de la croissance économique. Intervenant à la télévision publique sénégalaise, M. Brou a souhaité que la dynamique de la vaccination contre la COVID-19, qui a déjà démarré dans plusieurs pays depuis des mois, puisse se poursuivre et s'amplifier. Il n'y a que cette croissance qui va nous permettre d'avoir des emplois et la stabilité économique et financière et le progrès économique pour la région de l'espace CDAO, a-t-il expliqué. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Bonjour à toutes et à tous et merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, la France gère mal la situation, même très mal. Jamais la France n'avait connu un tel 1er mai, des sentiments de révolte sans précédent et bien sûr des cris de haine jamais entendus dans les années précédentes. Est-ce que la France est au bord de la guerre civile comme la craignent les responsables militaires où elle se trouve déjà dans une guerre civile? Beaucoup de violences ont éclaté entre les manifestants et les CGT. Donc, nous allons voir tout à l'heure avec des experts des questions internationales qui vont faire vivre ce débat, le débat d'aujourd'hui. Mais avant cela, je vous invite de regarder un reportage préparé par mes collègues. On sera avec vous juste après. Voyez, restez avec nous, je vous prie.
La fin de la manifestation parisienne du 1er mai a été marquée par de graves violences commises par des individus présents dans le cortège contre les militants CGT, membres du service d'ordre. Le syndicat a condamné l'attaque. Alors que le cortège parisien arrivait après de nombreux déboires à la place de la Nation le 1er mai, des militants CGT ont violemment été pris pour cible par un groupe d'individus présents dans le cortège. Dans de nombreuses images publiées sur les réseaux sociaux, on voit le service d'ordre du syndicat reculer, tant bien que mal, sous une pluie d'insultes et de projectiles. Dans une vidéo réalisée sur place, on voit ces individus dégrader des véhicules du syndicat avant de faire face aux militants. Au cours du face-à-face, les deux camps se traitaient de fascistes, CGT collabos, votant par ailleurs tagués sur des véhicules. Dans d'autres vidéos publiées sur les réseaux sociaux, on voit un membre de la CGT s'effondrer après avoir été frappé par derrière au cours de l'interaction. Dans un communiqué publié dans la soirée, la CGT a condamné aussi bien les violences commises par les forces de l'ordre sur le parcours que celles perpétrées par des manifestants contre ses propres militants. Insultes homophobes, sexistes, racistes ont précédé des actes de vandalisme sur les véhicules des organisations. Et bien plus grave, la haine s'est exprimée par un déchaînement de coups et de jets de projectiles. La CGT était particulièrement ciblée. Quant aux agresseurs, la CGT évoque un important groupe d'individus. Les syndicats déplorent 21 blessés, dont 4 graves. Le secrétaire général du syndicat, Philippe Martinez, a quant à lui dénoncé sur LCI des erreurs graves dans la gestion de la manifestation par les autorités, qui n'auraient selon lui fait qu'aggraver les choses en bloquant le cortège. Il a qualifié de scandaleux le caillassage des camions du syndicat. Il y a malheureusement depuis quelque temps des gens qui viennent pour faire autre chose que manifester. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la puissante mobilisation de ce 1er mai, a-t-il encore déclaré. Cela fait des années que les Black Blocs pourrissent les manifestations pour le seul bénéfice des pouvoirs en place. A réagi pour sa part le député communiste Stéphane Pau.
Alors quand on voit ces images, c'est difficile à croire que nous sommes en France. Donc des violences sans précédent, des sentiments de révolte sans précédent. À présent, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau M. Luc Michel, géopolitologue, vous pouvez m'excuser, politicien depuis Bruxelles. Monsieur Luc Michel, bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour de retrouver mon collègue Hugo, c'est toujours un plaisir. Surtout bonjour à nos téléspectateurs.
Merci à vous. Justement, un grand bonjour à M. Philippe Hugon, reporter de guerre et expert des questions internationales, qui a accepté notre invitation depuis Paris. M. Hugon, bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà.
Et bonjour à toute l'équipe, à vos auditeurs et bien sûr à Luc Michel.
Un plaisir de vous accueillir dans l'émission Le Débat. Alors, ma première question va s'adresser à M. Luc Michel depuis Bruxelles. Alors, M. Michel, en quoi, à votre avis, ce 1er mai était différent des années précédentes, surtout qu'un sentiment de révolte, des cris de haine jamais entendus depuis des années précédentes?
Tout d'abord, les Français étaient frustrés. Ça a été la même chose en Belgique, parce qu'il n'y avait rien eu l'année précédente en raison de la pandémie, mais surtout parce qu'il y a eu une colère, une explosion sociale qui monte, une colère sociale qui monte. Il y a des gens ruinés qui vivent aux portes de la misère. Il y a un énorme déclassement social et face à cela, il y a des jeux politiciens. Vous avez vu la violence qui était menée contre la CGT. La violence, elle est menée par des groupes qui sont soi-disant antifa et des groupes qui sont soi-disant de droite radicale. Ils sont bien connus des services de police politique, mais on ne les arrête pas et on les laisse faire. On a un peu l'impression, pour moi, ce n'est pas une impression, mais une tactique. C'est une stratégie de l'attention, c'est-à-dire qu'on les laisse se déployer pour saboter les manifestations comme on l'a fait pendant les manifestations des Gilets jaunes. On a vu le 1er mai, d'ailleurs, le retour des Gilets jaunes. On sait que ces groupes antifa et ultra-gauche sont des groupes qui sont utilisés par les polices politiques. À gauche, il y a des groupes qui sont dans l'orbite du milliardaire américain George Soros, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Ils sont notoirement liés à la police. Il y a une vingtaine d'années, le groupe britannique antifa Searchlight était lié au MI5 britannique. Et en Belgique, par exemple, nous avions un groupe antifasciste à Anvers qui était dirigé par le fils d'un commissaire de la Sûreté de l'État, la police politique belge. Et à Bruxelles, le même groupe était dirigé par un fonctionnaire des services du Premier ministre. C'est la même chose en France depuis une époque qui remonte à une soixantaine d'années. Ça a toujours été la spécialité de la Ve République, la manipulation de groupuscules servant la police.
Oui.
Indépendamment de l'explosion sociale, qu'il y a l'impression qu'ont les gens et qui est justifié qu'on ne s'occupe plus d'eux. Pendant ce temps-là, Macron se livre à des jeux politiques et tente d'emprisonner les Français à nouveau dans un face-à-face Macron-Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. Il pense qu'inévitablement, il va gagner ce face-à-face. Cette fois-ci, en 2022, c'est une grave erreur de jugement parce que le néo-fascisme français de Le Pen a gagné en ampleur et a gagné dans l'opinion publique. Et pour le moment, bien loin de s'opposer au Front National, Macron tente avec Marine Le Pen de s'emparer de la droite parlementaire classique. Ce sont les événements qui se passent depuis 40 ans dans la région Provence-Côte d'Azur.
Oui.
Donc on est dans une zone de danger avec un mécontentement extrême du peuple. Et moi, je prédis à court terme une gigantesque explosion sociale. La violence sociale, la haine, les affrontements avec la police, c'est aussi bien en France qu'en Belgique ou en Allemagne. C'est devenu aujourd'hui, on l'a vu également dans un pays paisible comme les Pays-Bas, il y a une espèce de vague de colère qui est en train de monter dans toute l'Union européenne.
Tout à fait. Merci. Monsieur Philippe Hugon, depuis Paris. Alors, Monsieur Hugon, nous avons une forte impression que les Français ont été laissés pour compte, car ce sentiment de révolte est bien différent des autres pays. Est-ce que c'est lié au Covid ou c'est bien autre chose?
Oh non, ce n'est pas lié au Covid. Hein. C'est un malaise qui existe depuis très longtemps. Mais je pense que sur cette question, il faut séparer en deux volets le problème. Il y a d'une part c'est cette dictature qui est en train d'être mise au point pour différentes raisons, hein, la surpopulation, le manque de travail, les bas salaires, la vie difficile que les Français subissent maintenant depuis très longtemps. Et puis, il y a d'autre part la CGT qui a été victime d'attaques. Alors, en ce qui concerne la CGT, c'est des gens que je ne plains absolument pas, puisque ce sont des gens qui n'ont pas hésité à utiliser la violence dans un grand nombre de manifestations il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont littéralement saboté l'économie française il y a 40 ans, et notamment, on l'a vu chez Renault et dans bien d'autres grandes sociétés françaises. Donc, je dirais que la CGT a récupéré un petit peu, a récolté ce qu'elle a semé depuis 40 ans. Voilà, en ce qui concerne ça, c'est le volet purement CGT. Hein. Alors, bien sûr qu'il est anormal qu'on puisse avoir ce genre de réaction dans des manifestations, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un système qui est en train de se mettre en place. C'est un système incontrôlable et incontrôlé, et on va arriver à des débordements de plus en plus violents jusqu'à ce qu'on arrive à non seulement un effondrement financier qui déclenchera un effondrement social où la violence sera extrêmement rapide et extrêmement violente dans toutes les manifestations qu'on pourra avoir en France dans les années qui viennent. Quand je dis en France, mais c'est également en Europe. Donc on est aujourd'hui au commencement, d'une fin d'une certaine forme de la société française.
Oui. Monsieur Luc Michel, d'après des experts politiques, et comme le craignent des responsables militaires français, ils l'ont exprimé dans une lettre donc à Emmanuel Macron, ils craignent une guerre civile. Est-ce que cette guerre civile est déjà sur place ou bien est-ce qu'il faut l'attendre?
De guerre civile, tout simplement parce que la violence, elle est à l'œuvre dans la jeunesse. La jeunesse n'en peut plus d'avoir sa vie ravagée par la pandémie. Et comme le disait M. Hugo, on assiste dans tout l'Occident à ce qu'on appelle la montée des coronadictatures. On a dans les constitutions maintenant occidentales les mesures de l'état d'urgence qui est exceptionnel, provisoire, qui sont coulées en choses permanentes et jugées. On a donc cette violence, et face à cela, il y a la violence de l'État. Il y a des violences policières inacceptables, et elles existent parce que ces gens ont reçu des assurances, des garanties, parce que leur propre État est en train de s'exciter. Il y a eu deux grandes fêtes de la jeunesse, je dis bien des fêtes pacifiques, qu'on a appelées la Boum et la Boum 2. La dernière s'est tenue ce 1er mai au centre de Bruxelles, dans une espèce de parc qu'on appelle le Bois de la Campe. Et la police est intervenue. On n'a pas traqué, cherché avec des chevaux, casé, attaqué à l'autopont des familles, des enfants, des pères de famille. C'est évidemment quelque chose d'inacceptable. Et derrière, il y a évidemment un plan. Moi, je ne suis pas complotiste. Je ne dis pas que la pandémie est organisée. Mais je dis qu'elle a été prise par les éléments dirigeants du système capitaliste comme ce qu'on peut appeler une divine surprise. Vous savez que le terme de divine surprise avait été employé par l'extrême droite française lorsqu'elle était arrivée au pouvoir en 1940, lors de la défaite française face aux nazis. Elle avait été prise comme une divine surprise pour amener Philippe Pétain au pouvoir. C'est un peu pour les capitalistes une divine surprise. Il y a des théories et des plans qui sont à l'œuvre. Vous savez qu'on a diabolisé Bill Gates, mais Bill Gates, ce n'est pas un assassin qui manipule les vaccins, mais c'est quelqu'un qui est un théoricien de ce qu'on appelle le néo-malthusianisme. Qu'est-ce que c'est la théorie? C'est qu'il n'y a pas assez de cartons, c'est leur expression, pour être partagé au niveau de la richesse par tout le monde. Il faut donc réduire la population mondiale, il faut moins de gens qui participent à cette richesse et à cette prospérité au profit de quelques milliardaires, et surtout, il faut contenir cette population par la transformation des démocraties en des semi-dictatures, ce qu'on appelle des démocratures. On voit aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi, on constate que à partir du moment où toute la population est en train de s'appauvrir, il y a une crise gigantesque, il y a une vingtaine de milliardaires qui ont multiplié par 4 à 200 leur fortune. Quelqu'un comme Jeff Bezos, il possède plus de 1200 milliards de dollars. C'est le patron d'Amazon qui a fait fortune. Il y a des gens comme Bill Gates, comme le milliardaire George Soros, dont je parlais, comme tant d'autres. Il y a eu hier un classement de la fortune qui a été révélé. Il y a de nouveaux milliardaires dans tout l'Occident. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Chine. Et le principal pays où ces milliardaires émergent, c'est précisément la France. Cette France où la colère sociale commence à être quelque chose d'insupportable. La France était déjà le pays des gilets jaunes. Je pense que l'explosion sociale va commencer là-bas et peut-être en Belgique.
Monsieur Hugon, est-ce que vous êtes d'accord avec la solution proposée par Monsieur Luc Michel?
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense surtout que c'est l'effondrement financier qui va amener à des situations extrêmes. Il est clair, et là je suis tout à fait d'accord avec Luc Michel, qu'un grand nombre de milliardaires ont multiplié leur fortune en laissant de côté les gens avec de bas salaires, avec des situations professionnelles extrêmement difficiles, d'où découlent des situations personnelles très difficiles, à savoir des divorces, des séparations, des enfants mis de côté, de la violence familiale. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable irresponsabilité de la part des classes dirigeantes et de la part d'un grand nombre de chefs d'entreprise, enfin, du moins de dirigeants de grands groupes industriels, et qui prennent des décisions, des décisions qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement, mais qui vont dans le sens du gain immédiat de très fortes sommes d'argent. Alors bon, moi je soutiens bien sûr le système capitaliste à condition qu'il soit mesuré et contrôlé. D'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui en France qu'un grand nombre de petites sociétés disparaissent au profit de grands groupes industriels. Et ces grands groupes industriels ont une puissance financière phénoménale. Et ça leur permet, bien sûr, de faire de très grosses pressions sur les politiques. Et les politiciens, s'ils veulent être élus, ils doivent tenir compte de ces
grands
présidents de groupe.
Oui. Monsieur Hugon, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous croyez que les Français vont se laisser faire? Car on voit très bien dans ces images que vraiment les Français donc ont ras-le-bol de la situation et même que le gouvernement a beaucoup profité de cette maladie pour étouffer dans l'œuf les manifestations au cours de ces, enfin, la dernière année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui, moi, de toute façon, les Français ne supporteront pas encore bien longtemps. Quand je dis pas bien longtemps, je pense que ça risque d'avoir, qu'on risque d'avoir une rentrée au mois de septembre très difficile, mais je pense que ça risque de demander encore 3, 4, 5 ans, 6 ans avant que la situation dégénère vraiment. D'ailleurs, les politiciens en sont bien conscients, puisqu'ils veulent mettre au point un système de rétribution des Français en minimal qui leur permettent de vivre, hein, un salaire de 1 000 euros. Beaucoup, beaucoup de gens. Et si ce système est appliqué, c'est pour désamorcer une situation explosive. Mais de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter, puisque nous avons un déficit absolument, un déficit économique qui est absolument incroyable, et cette situation ne pourra pas durer dans le temps. Donc on va arriver forcément à un effondrement financier dans les 3, 4, 5 ans, 6 ans peut-être, et c'est le jour où les gens ne pourront plus se nourrir, ou une aide tellement ridicule que la situation explosera. Mais avant que cette situation arrive, il en faudra beaucoup, puisqu'on va essayer d'endormir, d'anesthésier les Français avec des aides sociales qui leur permettront non pas de vivre, mais de survivre. Et ça, les politiciens et les financiers ont très bien compris le problème, d'utiliser un anesthésique qui leur permet de garantir une certaine paix sociale. Malheureusement, comme je vous le dis, c'est reculer pour mieux sauter, puisqu'on arrivera forcément à une situation catastrophique dans les années qui viennent.
Monsieur Luc Michel, est-ce que vous êtes d'accord avec la position de Monsieur Hugon?
Oui, c'est-à-dire que depuis 1945, les démocraties occidentales, mais moi, contrairement à lui, je ne suis pas un partisan du capitalisme, les démocraties occidentales ont neutralisé le mécontentement social. Ils ont tiré les leçons des explosions communistes des années 20 et 30, puis de l'explosion des fascistes dans les années 30. Ils tiennent donc la population dans ce qu'on appelle l'assistanat social. Quand vous dépendez d'un logement social, d'aide sociale, d'allocation sociale, vous ne faites pas la révolution et vous ne vous révoltez pas. Ce système a atteint ses limites précisément avec des explosions, par exemple, comme les gilets jaunes. La pensée actuellement du capitalisme, tout d'abord, c'est un peu comme en 1939, c'est la sortie par la guerre, il ne faut pas négliger cela. C'est le recette du système mondial par une troisième guerre mondiale dont les géopoliticiens américains parlent ouvertement, ils la voient vers 2050-2070. Et deuxièmement, c'est le développement de l'assistanat social avec les théories sur le revenu universel qui ne sont pas des théories de justice sociale mais des théories de contentement des masses sociales appauvries. À partir de ce moment-là, je suis d'accord avec M. Hugon que la prochaine crise, on ne va pas la compter en semaine ou en mois. On a vu, lors de la crise de 1929, par exemple, il a fallu des années avant que l'explosion sociale ne se détermine. Je pense qu'on va arriver à la même chose. On va avoir des vagues d'explosion sporadiques dans la rue, et puis on va avoir une vague de fond. Au milieu de tout cela, il y a des gens qui dirigent consciemment cette vague. Ce sont les milieux de la finance internationale, ce sont les dirigeants, les réels dirigeants de l'État profond américain. Et on a à côté de ça des dirigeants de base ordre occidentale, les gens comme Macron ou Carter, qui ont un peu l'impression de surfer sur cette vague et de prendre la direction du vent en tendant en l'air un doigt mouillé. Ces gens sont incompétents, ils sont incapables. Ils font de la politique politicienne au moment où il faudrait des mesures drastiques pour préserver la société. Au moment où la France est au bord de l'explosion, Macron se préoccupe uniquement, ainsi que Marine Le Pen, d'ailleurs qui est sa complice, se préoccupe uniquement des élections présidentielles de 2022. C'est une erreur fondamentale.
Oui. Monsieur Hugon, je me rappelle, dans un débat, que vous avez parlé des Français trop gâtés. donc, dans les années précédentes. Et est-ce que les Français, d'une part, sont prêts à souffrir, comme vous prévoyez les années à venir, comme donc, l'indique la crise économique dans plusieurs années? Est-ce que les Français sont préparés pour ça, ou est-ce que le gouvernement va trouver enfin une solution pour éviter cela?
Bon, ben, je pense que pour éviter une situation catastrophique comme elle va arriver dans les années qui viennent, il faudrait que les responsables politiques aient un courage politique. Or, il faut bien savoir que tous nos politiciens, du saint conseiller aux députés, aux sénateurs, ce sont des gens qui sont d'une lâcheté incroyable. Jamais on a vu, depuis des dizaines d'années, une telle lâcheté des politiques face à une situation qui s'annonce catastrophique. Car il faut bien savoir que la crise financière que nous allons avoir dans les années qui viennent n'est pas comparable à celle de 1929. La crise de 1929, ce n'était pas grand-chose. C'était le monde occidental seulement qui était touché. Là, on va impacter le monde entier. Et cette crise financière va déclencher des dizaines et peut-être même des centaines de millions de morts à travers le monde. Car comme vous le savez, on est à l'aube d'une famine mondiale, on est à l'aube d'une pénurie énergétique, donc on arrive vraiment à une situation comme jamais le monde a connue. Et nos politiciens, n'ayant aucun courage, eh bien aucun d'entre eux n'aura le courage de s'attaquer à ce problème-là.
Oui, des mots très forts de la part de M. Hugon. M. Luc Michel, est-ce que vous... livrez-nous votre analyse sur la question, je vous prie.
Je partage la vie sur la lâcheté des politiciens. On a le cas français où le premier mai a servi à exposer des ambitions présidentielles dans un pays qui est en crise profonde. Il fallait écouter Le Pen, Mélenchon ou Macron. Mais aussi, la même phénomène existe en Belgique. En Belgique, on parle de la prochaine réforme de l'État, comme si la vie d'avant allait reprendre son avant. Ce n'est pas le cas. Les politiciens, au milieu de tout ça, ils recherchent les vieilles recettes. La crise, elle est effectivement mondiale. Et quand on voit Macron évoquer le New Deal de Roosevelt à propos de l'Afrique, on voit qu'il méconnaît ce qui se passe. Ça se passe au moment où il y a justement la reconstitution du tiers monde avec des blocs militaires, un bloc américano-occidental en crise profonde, un bloc de l'Est qui se porte beaucoup mieux. On voit surtout qu'au niveau de ce bloc de l'Est, il y a des modèles sociaux alternatifs. Le seul pays qui s'en sort au niveau de la crise du Covid actuellement, c'est la Chine. La Chine qui, contrairement à ce qu'on raconte, ne pratique pas un capitalisme d'État, mais une économie dirigée, qui a maîtrisé la pandémie, on fait du tourisme actuellement à Wuhan, et qui a offert des perspectives à sa population. C'est le seul pays qui connaît actuellement une croissance. Et ce modèle chinois qui émerge au moment où le modèle occidental se trouve va évidemment avoir des conséquences en Afrique, par exemple, ou en Amérique latine. Je partage tout à fait l'avis de mon collègue sur le fait que les politiciens, non seulement ne maîtrisent pas, mais n'ont pas le courage qu'il faudrait face à cette crise, comme l'ont eu certains politiciens dans les années 20 ou 30. Cette génération-là n'existe plus, le bien public n'existe plus. Nous avons une génération de nains politiques qui pratiquent l'ambition personnelle, la corruption et l'hédonisme.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Un grand merci également à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir accepté notre invitation. Quant à moi, je vous laisse toutes et tous à la garde de Dieu. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Dans un communiqué rendu public mercredi 5 mai, l'ambassade de la République islamique d'Iran en Belgique a exprimé ses vives protestations quant à un verdict émis par le tribunal belge contre un diplomate iranien. La République islamique d'Iran a envoyé deux notes officielles à destination de la Belgique et de l'Allemagne pour leur rappeler l'immunité de M. Assadi en tant que diplomate en vertu de la Convention de Vienne. Le tribunal belge n'est donc pas en mesure de traduire en justice M. Assadi en raison de non-respect de la Convention de Vienne de 1961. Comment analyser cette violation de la Convention de Vienne par la Belgique? Écoutons à ce sujet l'analyse de Luc Michel, géopoliticien.
Tout d'abord, la réaction est parfaitement justifiée parce que c'est un scandale international doublé d'une iniquité juridique. Il faut commencer par dire un mot sur la Convention de Vienne. La Convention de Vienne, elle l'interprète et elle établit les usages diplomatiques, la reconnaissance des missions diplomatiques, des ambassadeurs et du personnel diplomatique et consulaire et des ambassades. Elle établit ce qu'on appelle l'immunité diplomatique qui protège le personnel diplomatique. Dans le cas de votre ambassadeur à Vienne, on a attendu qu'il se rende pour un déplacement en Allemagne. Il a alors été arrêté. C'est au mépris de tous les usages diplomatiques parce que votre immunité diplomatique ne concerne pas seulement le pays où vous exercez les fonctions diplomatiques, mais elle est reconnue internationalement. En particulier, les passeports diplomatiques permettent au personnel diplomatique d'un pays de voyager dans le monde entier en toute sécurité, qui plus est dans un pays voisin comme l'Allemagne, ou qui peut également être un pays de transit, puisque beaucoup de lignes aériennes transitent par les aéroports allemands. Une fois arrêté en Allemagne, au mépris à nouveau de tous les usages diplomatiques, ce diplomate qui a été arrêté illégalement a été livré et détenu illégalement par la justice belge. C'est un scandale. Les suites juridiques, quelles vont-elles être? Il y a un tribunal spécial des Nations Unies. C'est un organe constitutif des Nations Unies, établi en 1945. C'est la Cour internationale de justice, qu'on appelle aussi la Cour mondiale. C'est, vous savez qu'il y a un rang des tribunaux dans le monde. C'est le tribunal qui a le plus haut rang au monde. Il siège à La Haye. Il ne doit pas être confondu avec la CPJ, donc la Cour pénale de justice. La Cour pénale de justice s'est établie à La Haye parce que tous les grands organismes de l'ONU qui existent depuis la SDN dans les années 1920-1930 sont établis aux Pays-Bas. Donc probablement qu'au cours des prochains mois, l'Iran va citer l'Allemagne et la Belgique devant la Cour internationale de justice et les fera condamner. Il n'y a pas d'interprétation du droit, je le souligne. La Convention de Vienne parfois s'interprète, mais dans le cas de ce procès, il n'y a pas d'interprétation. C'est une violation de cette Convention. Maintenant, quel est le fond de l'affaire? Le fond de l'affaire, c'est l'iranophobie. Il y a une iranophobie comme il y a une russophobie qui est partagée par tous les pays de l'Union européenne. C'est lié à la suggestion diplomatique, politique et militaire de ces pays aux États-Unis et à l'OTAN.
N'hésitez pas à suivre nos émissions sur notre site http://parstoday.com/fr. Pars Today est actif essentiellement sur la toile et les réseaux sociaux, mais il diffuse son contenu en ondes courtes ou encore via des applications mobiles. Les toutes dernières évolutions politiques au Moyen-Orient, le rôle axial qui joue l'Iran en qualité d'une puissance régionale et pays à la fois sûr et prospère sont largement traités à travers les articles et les émissions présentes sur le site Pars Today, ce qui en amplifie l'importance dans la sphère médiatique régionale. Le service français de Pars Today utilise divers médias pour présenter ses productions politiques, culturelles et religieuses. Son objectif n'est que de permettre aux internautes de voir plus clair dans un monde où les médias mainstream manipulent l'opinion. Les locuteurs français pourront suivre l'actualité iranienne, moyen-orientale et africaine et francophone sur Pars Today à l'adresse suivante http://parstoday.com/fr.
L'Iran, la Russie et la Syrie décident de former une alliance navale tripartite. L'agence de presse russe a récemment annoncé qu'une salle d'opération tripartite russo-syrienne-iranienne serait mise en place pour assurer une sécurité durable aux navires iraniens et russes transportant des carburants, de la nourriture et de l'aide médicale au peuple syrien, ainsi que pour briser le siège américain et européen. L'Iran, la Russie et la Syrie ont décidé de faire une nouvelle alliance navale tripartite anti-Israël et de former une salle d'opération conjointe pour briser le blocus américano-européen de la Syrie. Les Syriens seront témoins très prochainement des surprises et des ouvertures importantes à différents niveaux dans la situation de leur pays. Plus de 10 millions de Syriens vivent dans des conditions très difficiles dans leur pays, a rapporté donc l'agence syrienne d'information. Cette détérioration de la situation en Syrie n'est pas seulement due à l'épidémie du Covid-19, mais aussi à des problèmes tels que la pénurie d'aliments et de médicaments et de divers dérivés énergétiques. Ces dernières années, les Syriens ont souffert de ces problèmes issus des politiques hostiles des États-Unis et de l'Europe contre eux. Au même moment, Israël a attaqué à plusieurs reprises des navires transportant des aides humanitaires en direction de la Syrie. Par ailleurs, les forces américaines et leurs mercenaires affiliés aux forces démocratiques syriennes déployées à l'est de la province de Deir ez-Zor ne cessent de piller les ressources naturelles syriennes de sorte que les civils syriens en sont privés. Le manque de carburant en Syrie a actuellement provoqué une crise énergétique et par conséquent, le secteur des transports dans diverses villes syriennes est confronté à un défi de taille. De plus, le quota quotidien de consommation de carburant requis par les citoyens syriens a été considérablement réduit et les voitures font une queue longue sur plusieurs kilomètres devant les stations-service. Cependant, l'arrivée récente de 4 pétroliers iraniens transportant 5 millions de barils de pétrole brut dans le port syrien de Banias avant les débuts du mois sacré du Ramadan était une bonne nouvelle pour le peuple syrien. Des sources ont rapporté que des navires de guerre russes ont accompagné les pétroliers iraniens jusqu'à leur arrivée au port syrien et ont fourni les possibilités nécessaires pour les soutenir. L'agence de presse russe a récemment annoncé qu'une salle d'opération tripartite russo-syrienne-iranienne serait mise en place pour assurer une sécurité durable aux navires iraniens et russes transportant des carburants, de la nourriture et de l'aide médicale au peuple syrien, ainsi que pour briser le siège américain et européen. Et c'est un mouvement sans précédent au cours des 10 dernières années. Mais l'arrivée récente de 4 pétroliers iraniens transportant les 5 millions de barils bruts a créé une grande ouverture dans divers milieux du pays. Impossible pour l'ennemi, les navires israéliens n'oseront pas frapper les pétroliers iraniens pour deux raisons principales. En premier lieu, la Russie protège les pétroliers iraniens et en deuxième lieu, les navires commerciaux israéliens seraient ciblés sur les entrées à Bab el-Mandeb et du golfe d'Oman. Cela signifie que les alliés de la Syrie, qui se sont rangés de son côté dans la grande crise provoquée par la conspiration américano-israélienne et le terrorisme vaincu, ne quitteront pas la Syrie. L'alliance Iran-Russie vise à briser le blocus occidental et à livrer de la nourriture au peuple syrien. Certains experts du Moyen-Orient estiment qu'après la ferme réponse de Téhéran à la récente agression israélienne et l'augmentation du niveau d'enrichissement d'uranium à 60%, les responsables israéliens, dont Netanyahou, n'osent plus défier l'alliance trilatérale Iran-Russie-Syrie. À noter enfin qu'hier, cité par le quotidien Rayal Yom, le général israélien Itzhak Brick a confirmé que les systèmes de défense antimissiles du régime ne seraient pas en mesure de réagir à des milliers de missiles envoyés quotidiennement sur les territoires occupés en cas d'un nouveau conflit. Il affirma que notre armée n'a pas réussi à choisir le bon missile pour tirer sur le missile qui venait de la Syrie. Notre armée a été surprise, elle n'était pas prête à intercepter ce missile et ce, alors que la défense antiaérienne d'Israël aurait dû agir plus vigilamment que ça. Et d'ajouter qu'entre 2000 et 4000 missiles seront tirés en direction du front intérieur israélien en cas de déclenchement d'un nouveau conflit. Des milliers de missiles seront tirés vers nous pendant des semaines en paralysant les systèmes d'interception de l'armée. Le général israélien a ajouté que les missiles antimissiles et les missiles sol-sol ne pourraient garantir qu'une immunité de quelques jours, et cela uniquement pour des cibles vitales telles que les centrales nucléaires, les installations de dessalement des eaux et les bases aériennes, et qu'il ne pourrait donc pas protéger les zones d'habitation civile. Et même si les systèmes de défense antiaérienne de l'armée réussissent à intercepter un certain nombre de missiles tirés, cela ne servira à rien par rapport à des milliers de missiles qui prendront Israël pour cible tous les jours, infligeant d'immenses dégâts à nos infrastructures, d'autant plus que nous sommes face à des missiles sol-sol dont la plupart sont de haute précision et qui sont tirés depuis une petite distance. Et tout cela dit que notre armée n'est pas du tout prête à une telle guerre, annonce-t-il.